Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes, 92.2 sur les ondes, radionîmes.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avec l'accent. Pour une nouvelle émission d'Envie de Nîmes, le rendez-vous mensuel autour du patrimoine nîmois. Alors c'est le patrimoine sportif, patrimoine archéologique, mais surtout le patrimoine humain. Cette émission est présentée par Salem Marchi et Bernard Mouret et fait l'objet d'un podcast disponible sur le site internet. Fait également l'objet d'une rediffusion tous les 15 jours, c'est-à-dire le troisième mercredi du mois. Lors d'une précédente émission, nous avions évoqué les 80 ans du journal Midi Libre, mais le temps nous avait manqué pour évoquer le secret des sources et la confidentialité du métier. Alors on va essayer de réparer ce manque aujourd'hui, mais en le complétant, puisque nous avons le plaisir de recevoir Jacques Tessier, un homme d'église, Camille Lapierre, l'homme de la médecine, Séverine Moulis, lord de la justice, et Edith Lefranc, dans le journalisme. Alors je vais demander à chacun de se présenter, de préciser son lien avec Nîmes, mais avant, nous allons avoir le bonheur d'écouter Salem.
Eh bien, comme d'habitude, je dis bonjour à nos amis nîmois qui nous écoutent toujours aussi attentivement, et ils sont de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, autour de cette table, c'est un immense plaisir, et je suis vraiment sincère, de recevoir le père Jacques Tessier, avec qui nous discutons depuis très longtemps. Bien sûr, le commandeur, je dirais, Camille Lapierre, chirurgien nîmois bien connu, qui a fait aussi de la politique et qui est un homme très très proche de ce qui se passe dans la cité. Bien sûr, mon ami Edith Lefranc, qui a été journaliste d'abord, ensuite directrice de l'agence d'Alès, puis directrice de l'agence de Nîmes. Et d'ailleurs, c'était, je pense que c'était la première femme qui a pris les commandes de Midi Libre. Et bien sûr, c'est venu la nouvelle bâtonnière de l'Ordre des avocats de Nîmes, la Cour de Nîmes, et qui, je pense, a forte envie de travailler pour son ordre et d'être présente dans la cité. Et je remercie vraiment de tout cœur tous nos invités.
Séverine Moulis.
Oui, c'est vrai, Moulis, je suis arrivée en 1995 à Nîmes, après des études de l'autre côté du Rhône, et j'exerce donc depuis 29 ans, et je suis bâtonnier depuis le 1er janvier.
Edith Lefranc.
Edith Lefranc, donc je suis journaliste à Midi Libre, parce que journaliste, quand on l'est un peu, on l'est toute sa carrière. Je suis arrivée à Nîmes en 1995 aussi. J'ai effectivement travaillé à Nîmes, à Alès, essentiellement dans le Gard, et maintenant je suis au siège du journal à Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault.
Camille Lapierre.
Oui, moi je suis donc le docteur Lapierre, chirurgien à la retraite depuis déjà 26 ou 27 ans, ce qui prouve que j'ai un certain âge et aussi une certaine expérience. Bon, j'ai été très longtemps président du conseil régional et président de la section disciplinaire du conseil régional, qui traitait souvent des fautes de déontologie. C'est la raison pour laquelle je pense que je suis invité à cette table, et je passe la parole à mon voisin.
Jacques Tessier.
Eh bien, je suis nîmois pur jus, puisque mon père, mon grand-père était nîmois. J'ai toujours vécu à Nîmes, sauf quand même pendant 30 ans pour des études et puis divers postes à droite et à gauche. Donc je suis prêtre et toujours pas en retraite malgré mon âge certain.
Je vous propose une première pause musicale avec le choix d'Edith Lefranc. C'est une chanson de Francis Cabrel.
Y a pas de langue ancienne, c'est la même toujours, pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. C'est écrit dans vos pages, mieux et bien avant nous, Rockstar del Mediodage, senda balem de vous. Vous, c'est un trait de plume. C'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau, leurs âmes et leurs visages, loin au-dessus de tout, Rockstar del Mediodage, senda balem de vous. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos,
cherche à se reconnaître. Dans chacun de vos mots, ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou. Rockstar del medio d'age, senda valendez-vous. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin, sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint, où la belle est en cage et son amant jaloux. Rockstar del medio d'age, senda valendez-vous. La fille à son fenestro canta l'usel sbarazz et dins cado canso, espero se trova a cobal forso mai qu'un poli joyou. Rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Ventadour, Peyre et Bertrand de Borne, sans autre troubadour, on veille à l'héritage, un guitare autour du cou. Rockstar del medio d'age, senda valendez-vous.
De retour dans le studio Jean Orsi. Et la première chose que je vais faire, c'est demander à Edith Lefranc pourquoi elle a choisi cette chanson de Francis Cabrel.
Alors j'ai choisi cette chanson parce que je trouve qu'il est très important de se rappeler d'où l'on vient. Et que cette chanson dit que finalement les mots qu'on prononce aujourd'hui dans les chansons, dans la littérature et peut-être aussi dans notre vie quotidienne, ils viennent pas de nulle part. Et ces poètes du Moyen-Âge, ces troubadours, ils disaient finalement la même chose que nous. Et à une époque où la culture peut être menacée, écouter une chanson avec de l'occitan dedans, c'est important aussi, parce que ces langues régionales, si elles sont plus parlées, si elles sont plus enseignées, elles disparaîtront.
Très bien, le message est passé. Alors Edith Lefranc, vous dites « je suis journaliste hein, », quand on vous demande ce que vous faites, vous ne dites pas « je suis directrice d'agence, je suis journaliste ». Alors c'est quoi exactement être journaliste ?
Alors, moi je suis journaliste parce que j'ai eu la vocation quand j'avais 14-15 ans. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, ça m'est tombé dessus. Et j'ai d'abord envie de transmettre l'information. Et je pense que c'est quand on est journaliste, on l'est un peu pour toute sa vie. On est curieux, on a envie de se poser à un endroit et de se dire qu'est-ce qui se passe ici, sans avoir d'avis préconçu. Il faut vraiment avoir un petit peu tous ses yeux, ses oreilles ouvertes. Et puis parce que je pense que la liberté de la presse, c'est un pilier, un fondement de la démocratie.
Bravo.
Que elle est en danger actuellement, comme d'autres libertés fondamentales, et qu'il est essentiel que le public puisse avoir le droit d'être informé. Donc plus que jamais, on a besoin des journalistes, on a besoin d'une presse libre et indépendante et forte.
Malgré les hostilités aussi, parce que vous rencontrez des difficultés, de l'adversité.
On rencontre de l'adversité. Moi, je travaille en presse écrite. J'ai toujours été journaliste de presse écrite. Donc, c'est un modèle économique qui est en transformation. On a des audiences numériques très fortes. Donc, finalement, un journal comme Midi Libre, qui existe depuis 80 ans, n'a jamais été autant lu. Il n'a jamais été autant lu, mais il est quand même en transformation économique, parce que c'est pas simple. Est-ce que le papier continuera à exister toujours ? Personne n'en sait rien. Donc on est dans un modèle qui se transforme, mais le fond, qu'on soit journaliste de presse écrite, de radio, de télé, de web radio, quel que soit le support, notre métier, il est le même. Notre métier, il est de transmettre l'information au public.
Mais on voit que dans le Midi Libre, c'est pas pour faire des compliments comme ça gratuits. Hein. J'engage ma parole devant l'auditoire. Le Midi Libre est très bien tenu. Il y a beaucoup, comme je vois tous les jours, je le suis, même si c'est bref, c'est vraiment un journal qui a de la tenue. On sent qu'il y a du travail. Et puis, il faut les faire tous les jours, les journaux, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
C'est un petit miracle quotidien, clairement. Mais dans un monde où beaucoup de gens s'informent dans nos sociétés, sur les réseaux sociaux, l'information gratuite, où il y a beaucoup de fake news, la crédibilité des médias traditionnels, elle est essentielle. Quelque part, on porte aussi, nous, c'est pas l'héritage des troubadours, mais c'est l'héritage de ceux qui ont été journalistes avant nous depuis 1944 et la création du journal. On a une marque, comme disent les gens du marketing. Nous, les journalistes, c'est pas vraiment ce qu'on dit, mais on porte quand même ça. Ce qui est écrit dans Midi Libre, bah, c'est pas ce qui est écrit sur le Facebook de Monsieur Intel ou de Madame Machin. Il y a justement un sérieux, une crédibilité à garder. On a une responsabilité importante sur nos épaules.
Et quel que soit le poste d'information, parce que je vois qu'à Midi Libre, il y a à la fois ça va du national, régional, au village, ville et quartier également. C'est vraiment l'information est importante.
La rigueur doit être la même partout dans toutes les pages.
On va faire un petit tour de table. Séverine Moulis, comment vous définiriez votre métier d'avocate ?
Alors j'avais envie de rebondir sur un terme qu'a utilisé ma voisine. Elle a dit « j'ai eu la vocation de devenir journaliste ». Dans la vocation, il y a l'avocat. Voilà, je crois que c'est une vocation que j'ai eue très tôt, à 17 ans. Et comment le définir, je ne sais pas. Je dis parfois que j'ai une raison de me lever tous les matins, une parmi d'autres. C'est celle-là, c'est-à-dire que j'ai le sentiment d'être utile à mon prochain et à chaque fois que je vais résoudre un problème, essayer de contribuer à le résoudre, eh bien, j'ai le sentiment d'avoir fait avancer un petit peu mon client et de l'avoir aidé. Et ça, c'est très important. C'est un moteur puissant. C'est un métier qui est un métier difficile, contraignant, de plus en plus. Je crois qu'on ne l'exerce plus aujourd'hui au bout de 29 ans de carrière comme je l'ai commencé à l'exercer au départ. Les contraintes sont multiples, ce sont des contraintes de temps, ce sont des contraintes de délai, ce sont des contraintes réglementaires et administratives qui font qu'on étouffe un petit peu dans ce carcan. Malgré tout, on essaye d'avancer. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, je dirais qu'à la lumière, si vous voulez, de ce qu'on peut entendre dans la presse, hein, qu'elle soit écrite ou autre, ou en effet sur les réseaux, on voit bien que le monde change, qu'il change de façon inquiétante. Et nous parlions hier des menaces qui ont été formulées contre la magistrate qui a présidé la 11e chambre correctionnelle de Paris parce qu'elle a rendu une décision qui déplaisait à certains. Ce sont des menaces qu'on trouve aussi contre les avocats sur les réseaux sociaux. Et récemment, un journal que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de publicité a jeté en pâture à nos concitoyens le nom de 60 avocats. Et ensuite a publié sur les réseaux sociaux, des avocats qui font du droit des étrangers, et ont publié sur les réseaux sociaux leurs photographies, en les rendant responsables, ainsi que les magistrats qui statuaient, de la situation migratoire actuelle. Donc c'est pour vous dire que le monde judiciaire, comme le monde journalistique, souffre d'une ambiance détériorée, dans un monde où on donne la parole, contrairement à ce qui se passait avant, à des personnes qui ne sont pas seulement des personnes qui sont des sachantes, comme on le faisait avant, avec des professeurs émérites, etc. Mais tout le monde a une parole qui est supposée avoir la même portée, parce que l'outil est le même pour tous, et ça donne de la crédibilité, parfois, à des propos qui ne le sont pas crédibles. Voilà, et ça génère un climat qui est quand même assez délétère, et finalement, notre métier, notre combat prend tout son sens quand on doit l'exercer dans ces conditions-là, et on le voit bien. Regarde ce qui se passe pour nos confrères à l'étranger, en Tunisie, en Turquie, en Iran, où le pouvoir politique a soumis des personnes qui étaient libres, les universitaires, les juristes, que sont les juges ou les avocats, ou les journalistes.
Et le verbe « défendre », alors, et le mot « défense », ça, ce sont des mots que j'ai quand même formés, bien sûr. Hein. Bien défendre, sûr. C'est quoi pour l'avocat ? Défendre, la défense, c'est quoi ?
Ah ben, la défense, c'est quand quand vous devez assurer la défense d'un individu qui, finalement, est seul contre tout. C'est-à-dire qu'il est déjà condamné par la rumeur publique.
C'est ce que je voulais
dire. Il est déjà condamné par tous parce qu'il est, je dirais, immoral ou amoral, Sauf que nous ne faisons pas de la morale, nous faisons du droit. Par conséquent, nous sommes le dernier rempart pour l'individu qui, dans un autre pays, serait lapidé, jeté du haut d'un bâtiment, tué sans procès, dans des pays où il y a encore même la peine de mort. Nous sommes là pour qu'il y ait au moins une personne qui soit là pour le défendre. Alors, je ne vais pas faire de propos qui seraient des propos de supermarché, enfin des considérations qui ne sont pas surtout devant le père Tessier, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bon, on jette beaucoup de pierres à des individus, et nous sommes là pour faire écran entre ceux qui lapideraient sans autre forme de procès, et puis l'individu qui se retrouve isolé face à une société en furie, et qui a le droit d'être défendu, dans une société démocratique en tout cas.
Donc c'est ça, défendre,
ah oui.
Avec la robe.
Le dernier, celui que personne ne veut défendre, mais nous on sera toujours là pour le défendre.
On continue le tour de table, Jacques Tessier, sur la vocation peut-être.
Oui, alors il y a eu deux vocations avant moi, je vais en mettre une autre. Je dois avoir entre 17 et 18 ans. Ce qui, j'ai été, je ne sais pas comment, pourquoi ça m'est venu, séduit par l'humanité de Jésus. Voilà. Et je me suis dit, oh, ça vaut la peine de consacrer sa vie à ça. C'est pour ça que je suis devenu prêtre. Voilà. Alors, en quoi consiste mon travail? Au risque de vous surprendre un peu, ce n'est pas tellement la gestion du système religieux. Ça, je le fais parce que, bien sûr, c'est nécessaire. Mais enfin, le centre, c'est la rencontre des gens et essayer de chercher comment, la figure de Jésus qui nous parle les évangiles peut éclairer quelque chose dans leur vie. Voilà. C'est ça qui est le centre pour moi. Voilà.
Mais tu as quelque chose qui boue en toi quand même, une vie, quelque chose qui te pousse là, comme le vent pousse la voile.
Eh bien, c'est ce que je viens de dire, j'ai été séduit.
Ah, je voulais que tu le dises plus fermement, quoi. Oh. Tu es trop timide.
Tu veux que je crie fort?
Non.
Comme en temps de jusqu'à la Tourmagne.
Camille Lapierre sera beaucoup moins timide. Camille Lapierre sur la vocation.
Oui, moi aussi j'ai vu la vocation, mon cher père. La vocation, mais c'était une vocation d'être médecin. Je crois que je le dois au fait que j'avais 5 ans et demi à la naissance de mon second frère, Robert, qui a été chirurgien ensuite à Marseille. Et ma mère m'avait dit, ne reste pas là. On va recevoir le cadeau d'un grand magasin et ton petit frère va naître. Mais curieux comme un pouce, je suis monté sur la fenêtre et je me suis dit, tu vas voir un peu comment on déballe ce gosse. Et bien entendu, je reçois une claque sur les fesses, je me retourne, je vois un monsieur élégant, jeune, bien habillé, chemise blanche, cravate, et c'était le médecin qui m'avait accouché à mon épouse. Et je pense que ce fait a déclenché en moi un désir d'être médecin qui a résisté, malgré l'âge de 18 ans, une hésitation avec la prêtrise, je reconnais, c'est vrai, parce que j'avais un prêtre au lycée qui était très coopératif, très incisif, mais c'est la médecine qui a dépassé. Ensuite, donc, je suis devenu médecin, chirurgien, j'ai fait toutes mes études d'abord à Alès, puis ensuite à Montpellier. Bien entendu, pour faire en médecine, j'ai fait latin grec, ce qui aide beaucoup, c'est indiscutable. Et puis je suis devenu chirurgien à la fois hospitalier et à la fois libéral. C'est vrai que la rue Hoche n'avait rien à voir avec le CHU d'aujourd'hui. Les médecins étaient des chirurgiens qui étaient à la fois des chirurgiens hospitaliers et des chirurgiens privés. Donc ça créait une émulation, puisque c'était des gens qui étaient entre eux, non pas des ennemis, mais des émules. Les uns étaient lancés par les autres. Et c'est vrai que même si j'ai goûté, comme le disait tout à l'heure mon ami Salem, si j'ai goûté à la politique, croyez-moi, si demain j'avais un conseil à donner, restez médecin, restez chirurgien, restez avocat. Ne vous mettez pas dans ce pétrin qui est quelque chose d'horrible, la politique. Le jour où j'ai commencé la politique, alors que je n'avais jamais eu une critique sur mon métier, je n'avais jamais été hué, je n'avais jamais été conspué, à partir de là, j'ai reçu des cercueils, j'ai reçu des menaces. C'est quelque chose d'horrible, la politique, quoi qu'on en pense. Et si demain j'avais à la refaire, c'est pas de la politique que je ferais, mais je m'en serais encore perdu.
Ouais, mais tu voulais contribuer au bien de la cité quand même. Tu as quand même contribué au bien de la cité, tu voulais faire du bien. Je pense que je suis sûr que tu le referais encore, parce que bon, c'est passionnant aussi la politique. Parce que moi j'aime ça, la politique. Bon, ben après,
c'est passionnant,
qu'il faut pas, c'est en vivre.
C'est passionnant, mais quand tu es convoqué par la PJ. Et qu'on te dit, monsieur, j'étais à Kennedy en train d'opérer, venez dans un bureau, on arrive, un bureau tout noir, le gars tape à la machine, comment vous appelez-vous, qu'est-ce que vous faites, combien est payé monsieur un tel à la mairie, combien il fait ceci, combien il fait cela, je viens une fois, on me rappelle, j'y vais une deuxième fois, je dis, vous ne me reverrez plus, monsieur. Comment je ne vous reverrai plus? Vous êtes accusé d'avoir fait votre piscine par Monsieur Carrel. Vous êtes accusé d'avoir fait votre devant de porte par Monsieur Carrel. Nous demandons, j'ai dit, mais je vous invite à venir chez moi. Nous n'avons pas le droit de venir. J'ai dit, mais je vous invite à boire le café chez moi. Ils téléphonent à leur patron. Leur patron leur dit, venez visiter. Ils viennent visiter. Ils trouvent une piscine qui avait 30 ans d'âge. Ils trouvent le devant de porte magnifiquement fait. Il me dit, ça vous l'avez payé? Je dis, bien sûr, je sors les factures. Et là, le type me dit, il vous a bien vu, Carrel, vous avez payé 20% trop cher. Donc voilà, j'ai donc été dénoncé par quelqu'un sur quelque chose qui n'existait pas. Voilà la politique.
Eh oui, c'est triste.
Je vous propose une deuxième pause musicale.
Vie normale, de comédie, de maladie, de tes amis, de tes mains sales, de sous le lit, trois dans la malle, bla 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 bla. Parlons plutôt de moi, non. Parle-moi de moi, toi.
Moi mes oiseaux, moi mes médailles, de comédie, de maladie, à tes amours, tes boréales. Sur le lit, toi dans la malle. Bla 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 bla. Parlons plutôt de moi, non. Parle-moi de moi, toi. À ce lettre nous manque, moi.
Faisons de moi notre passion. Thank you.
retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent. Et Camille Lapierre voulait ajouter une précision sur ce qu'il avait dit.
Oui, je voudrais apporter une précision, parce que lorsque j'ai parlé de ma vocation de médecin, je pense qu'on peut parler aussi de vocation en médecine. Je veux dire en parlant que je n'avais aucune parenté avec quelques médecins que ce soit, quelques chirurgiens. Il n'y en avait aucun dans la famille. Et c'est vrai que ce sentiment que j'avais lorsque je recevais quelqu'un dans mon bureau, voyez un monsieur qui me disait, à qui je disais, il faut vous faire une colectomie, c'est-à-dire une ablation du côlon, avec une colostomie, c'est-à-dire un anus artificiel. Je dis, mais comment ce monsieur peut te faire confiance? Mais c'est pas lui qui devrait me payer, c'est moi qui devrais le payer. De la confiance qu'il me fait, une confiance. Parce que lorsque vous n'avez pas devant vous des gens qui ont été médecins et qui vous démontrent cette routine, vous êtes surpris par ce fait-là. Et ça, c'est une chose que je tenais à signaler.
Ben c'est très bien. Oui, alors, sur ces métiers-là, finalement, ce sont des métiers symboliques et importants. Il y a, comme on en parlait en aparté, là, il y a la question du secret. Le secret et la confidentialité. Peut-être que je vais poser la question à Madame la Bâtonnière. Est-ce qu'il y a une différence entre le secret et la confidentialité?
Alors, le secret, c'est un terme qui est presque plus puissant. Le secret, c'est celui dont Victor Hugo disait qu'il était si bien gardé par les enfants. Peut-être pour ça d'ailleurs que dans les procédures, on tarde à obtenir des éléments pour démasquer certains abus. En tout cas, il y a quelque chose de lourd dans le secret. On parle des secrets de famille aussi. Et le secret, c'est quelque chose d'absolu, en tout cas pour nous, les avocats, puisqu'après il y a quand même des différences en fonction des différents types de secrets qu'il y a autour de cette table. Il a surtout, donc il est bien sûr inclus dans notre règlement intérieur national que chacun peut aller consulter sur internet, et puis après on a nos règlements locaux mais qui reprennent pour bonne partie le règlement intérieur. C'est aussi une obligation, en tout cas il est protégé aussi pénalement, puisque vous savez bien que s'il y a une violation du secret professionnel, il est à la fois sanctionné, il peut être sanctionné sur le plan pénal mais aussi disciplinaire, et puis pourquoi pas aussi de façon civile, mais surtout pénale et disciplinaire. Et il a vocation surtout dans une société telle que la nôtre, et ça je crois que ça vaut pour tous ceux qui sommes autour de cette table, d'abord pour instaurer cette confiance, cum fides, avec foi. Donc là aussi on retrouve des racines latines, bien. Moi aussi j'ai fait du latin, docteur, qui est très important. Cette confiance qui va s'instaurer entre l'avocat et son client. Il y a aussi un intérêt qui est un intérêt initialement qui était celui de la défense, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que historiquement à la genèse du secret de l'avocat, il y a cette idée de la défense pénale, c'est de défendre le dernier de ceux que... à qui personne n'accorderait même la parole. Et puis il y a aussi un intérêt social, et ça je pense qu'il faut insister là-dessus, parce qu'on voit souvent le secret comme quelque chose qui va servir à camoufler dans les dérapages qu'on peut entendre sur les avocats ou sur d'autres professions soumises au secret. Mais c'est d'abord un intérêt social. Et ça on l'oublie, c'est-à-dire que l'avocat va participer aussi par le respect du secret, d'abord au respect, par exemple, des procédures. On parlait tout à l'heure de la police. L'avocat va être muet lorsqu'il sort de garde à vue. Il n'a pas vocation à aller raconter ce qui vient de se passer lorsqu'il a assisté son client. Il va se taire sur les procédures dont il a à connaître. Il est soumis au secret de l'instruction aussi. Et tout ça, ça participe à la sérénité de l'avancement de la justice, qui est un intérêt supérieur presque à celui de l'individu. C'est-à-dire que ça a été créé non pas pour arranger le client de mettre un tel, mais ça a été instauré pour que la justice puisse travailler sereinement, pour ne pas qu'il y ait des fuites, parce que c'est ces fuites-là qui peuvent compromettre l'issue d'une enquête. Donc ça, je pense que c'est important. Et ce secret, c'est ce qui fait que la personne va venir en toute confiance parler à son avocat, comme à son médecin, comme à son prêtre, ou au journaliste, sans que ce qui va être dit dans entre les quatre murs de son cabinet ne soit propagé à l'extérieur. Et ça, c'est très important, puisque si on fait le parallèle avec la politique, on voit bien que actuellement, en plus notamment, où on incrimine les magistrats, les avocats qui sont des professionnels soumis au secret, qui ont un savoir-être, c'est-à-dire qui ne passent pas leur temps, théoriquement, à aller commenter les dossiers ou les procédures sur les réseaux sociaux. Bien, on voit bien là, le hiatus qu'il y a entre, d'une part, le monde politique qui s'énerve beaucoup et qui s'agite énormément pour commenter toujours et en tout lieu n'importe quelle décision, au point qu'on est obligé de mettre une magistrate sous protection, ou bien des avocats qui sont aussi menacés. Et on a, de l'autre côté, bien, ce monde, qui est le monde judiciaire, avec les magistrats d'un côté, les avocats de l'autre, chacun à leur place, qui respectent ce secret. Et c'est ce qui fait qu'on a confiance aussi dans l'institution, c'est qu'il y a ce respect de ce qui a été dit. On ne fait pas d'effet de manche à tout propos, mais on travaille dans le temps long, parfois, dans le calme, dans la sérénité, dans le secret, pour qu'on puisse aboutir à quelque chose d'acceptable, pas une réflexion à l'emporte-pièce comme on en voit trop souvent. Et j'en termine, parce que je ne veux pas monopoliser votre micro, pour vous dire que je découvre aujourd'hui que sous l'administration Trump, par exemple, on est en train de remettre en cause des permis qui ont été donnés à des avocats qui ont par ailleurs, non pas seulement la casquette d'avocat, mais qui interviennent aussi sous d'autres casquettes, notamment le mari de Madame Harris travaille dans un cabinet d'avocats. Et donc, il y a des négociations qui se font avec ces cabinets-là pour, moyennant la reconduite des permis qu'ils ont de travailler dans certains domaines, l'obligation pour eux de venir contribuer à hauteur de temps dans la défense d'intérêts communs. Donc vous voyez bien que dès que le politique commence à s'immiscer dans le travail des professionnels à la faveur de régimes qui sont quand même qui interrogent, eh bien le professionnel se retrouve un petit peu le petit doigt sur la couture du pantalon, et ça peut contribuer aussi à entraîner un déficit de confiance chez la personne qui va venir se confier. Parce que si on considère que ou son avocat ou le magistrat va être à la merci du pouvoir politique, ben, en effet, s'il n'y a plus d'indépendance, c'est aussi une rupture de confiance.
C'est l'intimidation.
Là, on s'éloigne un peu du secret, mais c'est l'intimidation, et clairement, on commence à rentrer dedans, et pas seulement dans les pays dits non démocratiques et libéraux.
Là, c'est le bâtonnier qui parle, attention. Je vais peut-être passer au père Tessier, parce que ça m'intéresse, la question on reste toujours dans le secret, la confession. Alors, quels sont les... D'abord, qu'est-ce que c'est que la confession?
Et alors, je peux faire un petit prélude, parce que je voudrais me débarrasser d'un truc...
Oui. Mais il y a le secret là quand même.
Qui n'est pas acceptable. Je trouve que dans ma sainte église catholique, apostolique et romaine, comme on dit, il y a traditionnellement une culture assez maladive du secret. Je vous donne un exemple. D'accord. J'étais curé dans les années 80 dans le Gard. Une dame vient me voir, proche de la retraite. Elle s'était mariée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec quelqu'un, au bout d'un mois, ils s'étaient mariés, puis au bout de 6 mois, ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Il dit, maintenant, ben, je voudrais revenir à l'église, etc. J'ai demandé la reconnaissance de nullité de mon mariage. Ça m'a été refusé, et on ne veut pas me dire pourquoi. Je dis, est-ce que vous avez voulu vous marier? Oui. Est-ce que vous étiez libre? Oui. Est-ce que vous avez exclu la possibilité d'avoir des enfants? Non. Ben, j'ai dit, votre mariage, juridiquement, il est valide, c'est normal qu'on vous le refuse. Mais vous voulez savoir, vous avez bien droit à savoir les termes du jugement. Alors j'ai écrit à Montpellier, à ce qu'on appelle l'officialité, au tribunal, on m'a répondu que les jugements n'étaient pas communiqués. J'ai écrit à l'évêque de Montpellier en lui disant, comment se fait-il que l'Église ne soit pas capable de faire ce que fait la société civile tout le temps? Alors je trouve ça inadmissible, je vous préviens, si vous ne faites pas droit à la demande de cette personne, moi je fais une campagne de presse et je vais commencer par Midi Libre. Oh, dans la semaine, j'ai eu la réponse de l'évêque et on m'a transmis le dossier à moi en me chargeant d'expliquer les termes juridiques à la personne. Mais dans le procès canonique qu'elle avait eu, il y avait un avocat. Pourquoi on ne l'a pas fait à son avocat? Enfin, je lui ai expliqué, c'est exactement ce que je lui avais dit. Voilà ce que j'appelle une culture maladive du secret, dont les raisons profondes, je ne les ai jamais analysées, mais c'est une affaire qui joue aussi une attitude qui joue aussi dans toutes les affaires de pédocriminalité. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient favorables à ça. Ça veut dire que ça a bien arrangé qu'il y ait cette culture du secret. Je ferme ma parenthèse. Donc, votre question, c'était le secret de la confession.
Voilà.
Bon, par exemple, si vous voulez, j'ai divers registres au secret. J'ai, du même type qu'un médecin, qu'un avocat, professionnellement, je n'ai pas raconté à d'autres ce que des gens m'ont dit personnellement. Voilà. Et c'est une question de confiance envers moi et je dirais d'honnêteté, moi, vis-à-vis d'eux. Voilà. J'ai même pensé, je l'ai écrit sur un bout de papier, je ne sais pas si ça se fera, mais je me dis, le jour où je casserai ma pipe, je voudrais qu'on commence par remercier les gens qui sont là en leur disant, mais sans votre confiance, je ne serai rien. Voilà. Bon, alors, ça c'est le secret, je dirais, c'est à peu près au même registre que le secret d'un psy, d'un avocat, d'un médecin, voilà. Alors après, le secret de la confession, c'est tout à fait particulier. C'est tout à fait particulier parce que, dans cette fonction-là, le prêtre symbolise la relation aux plus hautes autorités. Et les plus hautes autorités, on ne les a jamais vu faire un communiqué dans le Midi Libre. Pour prendre une image, voilà. Donc, on est tenu à ça, de façon rigoureuse, et en ce qui me concerne, pour moi, c'est absolu. Ceci étant, si quelqu'un vient me dire qu'il a assassiné quelqu'un, je peux lui faire ça c'est classique dans les pratiques de l'Église, si on accuse un innocent, je peux lui faire le devoir impératif à se dénoncer pour ne pas laisser accuser un innocent. Si quelqu'un qui a volé, qui a fait... Si il n'accepte pas d'essayer de réparer la chose qu'il a faite, je lui donnerai pas l'absolution. Voilà. D'accord. Mais c'est la seule, entre guillemets, arme que j'ai, parce que la personne a l'entière responsabilité de sa propre conscience. Voilà. Et Dieu n'est pas celui qui vient... boucher les trous de nos bêtises, quoi, voilà. Donc, là, il y a quelque chose d'absolu qui n'est pas toujours facile à comprendre quand il y a des enjeux vitaux en jeu, mais ça, c'est l'attitude traditionnelle de l'Église, et je trouve, pour ma part, qu'elle est juste, voilà.
Mais ça reporte la responsabilité, quand même, sur le prêtre, finalement.
Et parce que, je vais vous donner aussi une petite image, un de mes professeurs de séminaire à Paris, trouvait que des jeunes qui rentraient au séminaire étaient très cadrés, on applique les principes du droit canonique, pom, 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 pom. Et il les avait laissés parler, puis il leur avait dit, je trouve que vous ne faites pas de grand cas du sacrement, de l'ordre sacrement que reçoivent les prêtres. Parce que si c'est ce que vous dites, avec un bon ordinateur, il n'y a plus besoin de prêtres. C'est la même chose dans la justice. Il y a à interpréter dans le cadre des situations. Donc ça relève sur la responsabilité. Ça m'est arrivé... une fois, de donner l'absolution à quelqu'un qui était dans une situation, je ne donne pas plus de détails, mais qui était complètement hors norme, rejeté, tout et tout, au plan éthique. Mais ce pauvre type, il ne savait plus comment s'en sortir. Il essayait, mais il n'y avait pas de bonne solution et tout et tout. Alors je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas le droit de vous donner ça, mais vous faites ce que vous pouvez dans la situation, vous essayez d'avancer, de trouver une solution... qui soit la moins mauvaise pour vous et qu'il blesse le moins possible qui que ce soit. Et je trouve que vous êtes dans une démarche authentique. Donc, vous n'êtes pas rejeté des plus hautes autorités. Je vais vous donner l'absolution. Je ne m'en suis jamais ouvert, ni à l'évêque, ni à personne d'autre. J'ai pris ça sur ma conscience pour donner des exemples.
Je vous propose une troisième pause musicale.
It's a god awful small affair. Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. Oh,
pictured brow. But Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know in the best-selling show. This is live on
studio Jean-Orsi de Radio Nîmes avec l'accent, et je vais demander à Séverine Moulis pourquoi elle a choisi cette chanson de David Bowie.
Alors Life on Mars, je ne l'ai pas choisi, je vous rassure tout de suite, comme référence Elon Musk qui envoie des navettes, qui essaye en tout cas d'envoyer des navettes là-bas. Non, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que j'ai écouté David Bowie dans les arènes de Nîmes il y a maintenant un certain nombre d'années. Et c'est un de mes chanteurs préférés. Et il représente aussi pour moi une époque beaucoup plus libre et moins cadenassée, je dirais. En fait, en tout cas, beaucoup plus respirable. Et si je dois faire un clin d'œil au père Tessier, je dirais que c'est une effraction salutaire, pour reprendre le titre d'un de ses livres sur la tauromachie que j'ai lu. Et en effet, parfois la musique est un moment d'évasion salutaire.
Très bien. Le secret des sources en matière de journalisme, Edith Lefranc.
Alors, le secret des sources, c'est quelque chose d'indispensable dans notre profession. Mais peut-être je peux resituer nos règles déontologiques. Les journalistes ont une charte qui s'appelle la charte de Munich, qui date de 1971, qui a été faite par des syndicats de journalistes européens réunis à Munich cette année-là. Et on n'a jamais vraiment fait mieux depuis, mais c'est très bien. Et dans cette charte, il y a les droits et les devoirs des journalistes. Et dans les devoirs, le premier, c'est de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour soi-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître. Donc on voit qu'il y a des journalistes qui sont effectivement menacés ou tués actuellement dans les zones de conflit ou dans des pays où il n'y a pas de démocratie. Mais voilà, le respect de la vérité, c'est primordial. Et le premier des droits, c'est le fait de revendiquer le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé aux journalistes que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. Donc vous voyez, c'est complexe, hein, parce que le public a le droit de savoir. Mais en même temps, un journaliste n'a pas le droit de mettre en péril une enquête judiciaire, une enquête de gendarmerie ou quelque chose qui pourrait, qui pourrait vraiment perturber ce travail. Et je vais donner un exemple récent qui va parler à tout le monde. C'est l'affaire des viols de Mazan, une affaire hors norme, qui forcément beaucoup de gardes à vue, beaucoup de gendarmes qui travaillent sur ce sujet-là, dans plusieurs départements, donc beaucoup de journalistes qui peuvent... Il peut y avoir des fuites, forcément. Ça se passe dans plusieurs brigades de gendarmerie, etc. Et à un moment, la gendarmerie fait savoir aux rédactions des différents titres que, pour l'instant, vraiment, c'est hyper important de ne rien dire, de ne rien écrire, de ne rien publier, que ça va venir en son temps, mais qu'on a affaire à quelque chose d'inhabituel. Bon, il n'y a aucun journaliste qui a trahi cet engagement, parce qu'il en allait de l'intérêt supérieur, là, de l'avancement de cette enquête. Alors ça, c'est un exemple. Et puis, il y a tous les autres exemples. Parce qu'évidemment, si on attendait que dans une affaire judiciaire qui dure des années, le dernier jour du procès en appel, on n'aurait pas parlé de l'affaire qui touche Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou des élus locaux plus localement. Donc, on est toujours quand même sur cette frontière avec la notion de grande responsabilité dans ce qu'on publie. Et toujours, évidemment, on n'est pas là pour nuire, on est là pour informer. Je voudrais dire aussi quelque chose sur le fait que quand quelqu'un nous informe, c'est jamais par pure philanthropie. L'informateur d'un journaliste, il a toujours un intérêt à ce qu'une info sorte. Pas forcément pour une affaire judiciaire, mais tout le monde a toujours un intérêt à parler de son sujet. Le journaliste ne doit jamais être dupe de l'intérêt qu'a la personne qui vient frapper à sa porte. Il nous arrive encore aujourd'hui de recevoir des lettres anonymes. Même si on a à l'époque des mails, on reçoit parfois. Moi, quand j'étais chef d'agence anonyme, j'ai reçu quelques lettres anonymes. C'est une façon qu'ont des gens de nous tirer par la manche en disant « Tiens, regardez de ce côté-là, quoi, braquez un projecteur. » Bon, c'est pas très pratique, hein, parce que une lettre anonyme, on sait pas qui nous écrit, on peut pas s'appuyer là-dessus, c'est compliqué. Mais il y a encore des gens qui s'adressent à nous de cette manière-là. Quand on va interviewer quelqu'un sur une affaire un peu sensible, cette personne peut nous dire « Ça, je vous parle en off ». Et c'est là où toutes nos professions se rejoignent, c'est que nous, on travaille sur la confiance. La confiance qu'a le lecteur. Qu'est-ce qu'il achète le lecteur quand il lit Midi Libre ? Il achète la confiance qu'il met dans nos écrits. Hein. C'est quelque chose d'assez difficile à palper. Il achète le fait que dans Midi Libre, il va être informé d'un fait qui est vrai, d'une information qui est recoupée, etc.
Puis ça a de la valeur.
Ça a de la valeur. Mais cette valeur-là, elle est
un peu... Il faut la préserver.
Faut la préserver, mais elle est un peu... immatériel, elle est difficile à quantifier et à évaluer, mais la confiance est essentielle. Un bon journaliste, il a un bon carnet d'adresses, il a un bon réseau, il a des bonnes sources. Avec ses sources, il a une relation de confiance. Si quelqu'un vous parle en off et que vous trahissez ce off et que vous publiez une citation dans le journal parce que quand même c'est une super bonne phrase, etc., bah, c'est un fusil à un coup, vous en servirez pas une autre fois, vous allez rompre la confiance avec votre interlocuteur. Parfois, on a des manières de tricher un peu avec du off, où la personne va vous avoir dit quelque chose en off et vous allez l'écrire d'une autre manière. Vous lisez souvent dans les articles de sources proches de l'enquête. On a quelques formules comme ça qui veulent dire que quelqu'un vous a parlé, qui ne veut pas apparaître, mais que cette information, elle est quand même réelle. dans ma carrière gardoise, j'ai fréquenté un représentant de l'État, un haut fonctionnaire du Gard, qui était vraiment une source formidable pour les journalistes, parce que c'est quelqu'un qui nous répondait tout le temps, et quelque part qui ne nous cachait rien, dans le sens où on était aussi dans une relation de confiance, et il nous disait, ça par contre c'est off, et ça c'est du super off, il disait même c'est du deep underground. C'est-à-dire ça vraiment, faut surtout pas l'écrire, mais je vous le dis pour que vous ayez la connaissance du sujet, et que vous écriviez pas de bêtises, et que vous partiez pas à enquêter sur je sais pas quoi s'il y a rien. Ou que vous partiez plutôt dans cette direction-là. Mais par contre, moi, je ne vous ai rien dit. Viendra le temps où mon organisme pourra vous parler.
On parlera après.
Exactement. Donc c'est aussi c'est cette relation-là qui est la relation de la confiance.
Attends, bien sûr.
On va un petit peu sur la médecine, parce qu'il nous reste assez peu de temps, une dizaine de minutes. Alors on va peut-être évoquer le serment d'Hippocrate. Et puis...
Oui, le secret professionnel en médecine est intangible. On n'a pas le droit de signaler quoi que ce soit, un petit peu comme le disait tout à l'heure le père Tessier, sauf que si par hasard, et là je vais parler sous la haute autorité de madame le bâtonnier, sauf si j'opère un appendicite, un gamin qui arrive, je le trouve plein de bleu, je sens qu'il est battu dans une famille misérable, je peux, je crois, m'adresser au procureur de la République en disant... Voilà ce que j'ai constaté, sans trahir le secret professionnel à qui que ce soit. Ai-je raison ?
Oui, absolument.
Maintenant, pour vous dire quand même que ce métier de chirurgien, comme de médecin, comme d'avocat, je crois, et peut-être même comme de curé, n'est pas sans risque. Un jour, je finissais d'opérer, il était 14h, j'étais en train de manger un sandwich pour partir au cabinet. Lorsque je reçois un coup de fil, « Docteur, vous avez tué ma femme et je vais vous tuer. » J'ai dit « Mais qu'êtes-vous, monsieur Antel ? » J'appelle la police, on me dit c'est le meilleur tireur de tout le Languedoc-Roussillon. J'arrive à mon cabinet à la rue des Greffes, je sors de la bagnole en regardant de tous les coins, j'étais plus souple qu'aujourd'hui. J'arrive, je pousse la porte avec mon pied avant de rentrer dans le hall en bas. Je rentre et qu'est-ce que je vois ? Le gars assis dans ma salle d'attente. Je ne voyais pas s'il avait un fusil, pas un fusil. J'étais vraiment, vraiment inquiet. Et il n'a jamais demandé à passer. J'ai passé toute ma clientèle. Et vers 5h, 5h30, quand j'allais terminer, il se lève, il vient, il m'embrasse et me dit « je m'excuse ». Et effectivement, sa femme avait été opérée d'une vésicule. C'est à l'époque où on gardait les gens opérés, trois semaines, un mois. Et en sortant, alors qu'elle partait, elle avait sa valise, elle fait un infarctus du cœur et elle meurt. Il s'est rendu compte que c'est pas moi qui l'avais tué, donc il est venu s'excuser en pleurant. Mais c'est une histoire qui m'a quand même chatouillé, vous en doutez.
Eh oui, bouleversé.
Bon, alors est-ce qu'on embrasse aussi les avocates ou les journalistes quand les clients sont satisfaits?
Oh, on offre du champagne ou du chocolat. Surtout en période de Covid.
C'est plus référent. Alors nous, non. On n'est pas là pour être... On ne fait pas... Enfin, moi, je ne travaille pas, contrairement à des journalistes du service public. Je ne suis pas dans un service public, je suis dans une entreprise privée. Mais je considère qu'on fait quand même un peu une mission de service public. Donc, il y a des gens parfois qui nous remercient, mais c'est pas le... on n'est pas là pour être remercié. On est là pour informer les lecteurs. Moi, je suis plus contente quand c'est un lecteur ou des lecteurs qui disent « j'ai bien aimé votre article, j'ai bien aimé ce que vous avez fait », plutôt que si c'est une source. Parce que si c'est une source ou une personne sur laquelle on a fait un papier, bon, bah, elle est forcément pas très objective. On l'a mise en avant majoritairement pour des bonnes raisons. Donc, les journalistes sont pas à être remerciés autrement que par leurs lecteurs.
Oui, le meilleur compliment, c'est quand un client, avant même d'avoir la décision, vous écrit « Écoutez, je ne sais pas si on va gagner ou si on va perdre, mais ce que je sais, c'est que vous avez fait le maximum. » Donc ça, on sait qu'il a conscience du travail accompli, parce que ça se voit pas toujours et tout le monde ne se rend pas compte en fait, de ce qu'on fait quand on est au creux de nos cabinets. Mais pour en revenir au secret, ce que je voulais dire quand même, par rapport au secret de l'avocat, c'est que nous, on a un secret qui est protégé de façon constitutionnelle et qui est aussi protégé par la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 8. C'est-à-dire qu'il a une valeur, je dirais presque, mais c'est le cas, supérieure à celle de l'expert comptable ou celle d'un juriste. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a un combat hein, de la part de juristes d'entreprise, etc., qui veulent essayer d'obtenir des prérogatives d'avocat, je dirais, à la carte, c'est-à-dire avec les avantages sans les inconvénients, c'est-à-dire avoir le secret professionnel dans le cadre des échanges de correspondance qu'ils vont avoir en travaillant pour leur patron, mais ils n'auront pas la déontologie qui va avec.
Ils veulent manger le gâteau avec le plus de sucre.
Parce que alors là, on retombe sur, en effet, le manque de confiance, c'est-à-dire que si le secret professionnel a vocation à ce moment-là à venir camoufler des combines... Et pas, si vous voulez, simplement aider à la confiance, ça pose des problèmes, parce qu'on est quand même, nous, on a une déontologie qui est quand même très, très, très contraignante, et avec des, comment dire, sur le point de vue disciplinaire, des questions qui sont imprescriptibles. Je veux dire, à part les crimes contre l'humanité, il n'y a que la déontologie de la discipline de l'avocat qui peut être poursuivie jusqu'à la fin de votre carrière, et y compris lorsque vous êtes avocat honoraire. Donc, je crois qu'il faut... Il faut bien le... Mais l'avocat, s'il y a une telle protection sur le fondement de l'article 8 et de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes qui en rajoute, parce que pour elle, on n'est pas des auxiliaires de justice, mais des acteurs de l'État démocratique, c'est précisément parce qu'on considère que notre intervention dans ce monde démocratique, elle est essentielle. Voilà, donc... Et pour en terminer là-dessus, pour la première fois au monde, et ce sera en Europe, au mois de mai à Luxembourg, va être signée la première convention, qui est la Convention européenne de protection des avocats, pour justement baliser, si vous voulez, les atteintes qui sont de plus en plus prégnantes et de plus en plus décomplexées à l'égard de nos prérogatives et de nos droits. Hein, donc ça, je pense qu'il faut que les clients aussi le sachent, parce que c'est quand on protège les avocats, on protège aussi les clients.
Un petit détail, le secret médical, il n'est pas identique dans tous les pays. Exemple, quand un matador prend une blessure, les médecins français, ils ne peuvent rien dire. Les Espagnols vous font un compte-rendu détaillé et même publient des photos, ce qui est une faute professionnelle en France, ce qui veut dire que dans la façon de l'esprit, tout le monde a un certain secret médical, mais la façon dont il est géré dépend un peu de la culture locale. Pour les avocats, c'est pas pareil, parce que c'est constitutif de la démocratie.
Oui, là c'est Madame la bâtonnière. Là. Vous n'êtes pas simplement avocat, vous êtes aussi bâtonnière, donc responsable des 300 ou 400 avocats sur Nîmes. Mais en tant que bâtonnière, vous avez aussi l'obligation de vous occuper des avocats, veiller à leurs intérêts. Mais vous avez aussi relations avec les magistrats, avec
les experts,
avec la gendarmerie, avec la préfecture, avec
les médecins.
Et donc là, c'est quand même très délicat à gérer tout ça. Plus le reste.
Ah, c'est délicat, mais après, il faut être prudent dans ce qu'on fait, je crois. Alors, il y a on est à l'articulation de différents intérêts, je dirais, hein, intérêt du bon fonctionnement de la justice, l'intérêt de la protection des confrères, qui peuvent aussi, pas seulement dans le cadre de ce que je vous disais, faire l'objet de propos ou d'actions intimidantes. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'avocats menacés en France que depuis ces derniers mois, il faut quand même le savoir. Et puis on a aussi un rôle, je dirais, on n'est pas là pour faire de la couverture, mais on est là pour être un bouclier. Voilà, le bouclier ne veut pas dire couverture, hein, c'est
pour, oui,
pour
je qu'on comprends.
S'entende bien.
Très bien.
Mais par exemple, au titre de tout ce qui concerne le secret, on a quand même une grande nouveauté avec les procédures. Vous savez qu'on lutte contre le narcotrafic, etc. Donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre des coups de boutoir dans le secret de l'avocat, etc. Et puis qu'on crée des dossiers coffres, etc. L'avocat, les ordres d'avocats luttent contre le blanchiment, peut-être plus que toutes les professions. Et on met en œuvre par obligation, mais aussi on le fait tout ce qui concerne les transferts de fonds.
Je vais être extrêmement désagréable, mais je suis obligé de vous couper et je vous remercie très chaleureusement,
très sincèrement,
tous les invités. Merci à vous et merci aux auditeurs et donc au mois prochain. Merci.